voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Joël Gayot rencontre Mona Heftre. Ce soir, le tourbillon de Paris.
Bonsoir Mona Heftre.
Bonsoir.
C'est ce soir le second de nos rendez-vous. Hier, nous parlions de votre enfance. Aujourd'hui, nous allons évoquer la jeune Parisienne. Celle qui, dans le Paris des années 70, va mordre l'existence à plein de dents. Mais 68, on en a parlé et passé par là. L'époque est à la fantaisie, aux excès, aux expériences. Tout a l'air possible, puisque tout est permis. Et vous entrez de plein pied dans le tourbillon de la vie. C'est vertigineux, car ce tourbillon va vous entraîner à Sisteron, dans une communauté, à Ibiza, où vous fabriquez, je crois, une collection de maillots de bain, au théâtre du Ranelagh, à l'étage duquel vous allez dormir quelque temps, et jusque dans le milieu forain où vous allez travailler. Ce qui nous occupe aujourd'hui, Mona Heftre, c'est cette période de découverte, cette période de conquête. Premier pas à Paris, vous arrivez dans cette ville dont vous nous avez dit que c'était la ville où il fallait que vous vous rendiez. Qu'est-ce qui se passe? Quel effet elle vous fait, cette ville? Et comment vous arrivez? Déjà, concrètement, pratiquement, comment ça se passe, ces premiers pas à Paris?
Concrètement, c'était le mois d'août. Je venais donc d'avoir mon bac en juillet. Je m'étais quand même inscrite à la fac de lettres à Bordeaux. J'avais une bourse, au cas où. En fait, je n'irai jamais à la rentrée universitaire parce que, justement, je serai, à ce moment-là, dans la communauté à Sisteron. Je ne savais pas. Donc j'arrive à Paris avec la surveillante du lycée, qui elle s'était inscrite à la Sorbonne, et qui m'héberge pendant quelques jours. Donc je vais à la recherche des lieux où se passent les choses culturelles.
Et vous savez où les choses se passent?
Alors je vous dis, là, il se passait quelque chose à la Vieille Grille. J'avais entendu parler de la Vieille Grille.
Ce que vous nous disiez hier.
À la Vieille Grille, il y avait Rufus, Brigitte Fontaine, Igelin Areski qui faisait un spectacle qui s'appelait Maman j'ai peur. Bon, ça, je voulais aller voir ce spectacle. Donc j'arrive à la Vieille Grille avec mon ami de surveillante qui s'appelle Jim. La Vieille Grille s'est fermée. Le spectacle est terminé, mais par contre la porte est ouverte et il y a Maurice Alezra, le directeur, qui est là avec Jacques Igelin, qui dit entrez, entrez les filles, il nous voit deux petites provinciales. Entrez, entrez, voilà. Et puis Jacques Igelin nous a fait le spectacle Maman j'ai peur pour nous. Toutes les deux, il a fait tous les personnages, je me souviens, avec un tableau, voilà, il nous montrait des choses, il était complètement fou. Alors moi, évidemment, j'étais ravie. Et puis, voilà, Alezra avait un appartement dans le quartier rue des Écoles où il n'y avait pas de clé, il était très accueillant. Tous les gens de passage pouvaient dormir là, il m'a donné l'adresse. Voilà, puis donc je suis restée un petit peu là-bas dans cet appartement. Igelin, lui, allait tourner, elle court la banlieue, le film qu'il faisait avec Vergès, pour ramener du fric pour la communauté qu'il entretenait à Sisteron. Un jour, en se promenant avec lui, il me dit « Tiens, je vais t'amener rue La Cépède, de la place de la Comtesse Carpien, un mec qui s'appelle Savary, il a une troupe de théâtre. Ouais, tu vas voir, je vais te le présenter parce que moi, j'aimerais bien faire ça à Genève avec ma communauté de Sisteron. C'est exactement ce que je veux faire. On va aller le rencontrer. » Donc, on arrive au 55 rue La Cépède. Bon. Il cogne à la porte, il n'y a pas de sonnette. Il cogne, il appelle la fenêtre, oh, Jérôme, personne répond. Moi, il n'y avait personne. Ouais, il me dit, merde, c'est bon, il n'y a personne, tant pis. Il me dit, écoute, tu veux venir avec nous dans la communauté à Sisteron? Alors, on prépare un spectacle. Moi, je pensais toujours spectacle. En plus, Igelin, c'était quand même un artiste, un bel artiste. J'aimais bien cet homme. Donc, je lui dis, d'accord, j'irai pas à la fac en octobre, c'est pas grave, je pars avec toi à Sisteron. Donc, je suis parti en communauté à Sisteron, chez un Allemand qui s'appelait Gert, qui nous prêtait sa maison. Hein. Il y avait beaucoup de monde. J'ai vu la femme d'Igelin, son bébé, parce qu'il avait une famille, je ne savais pas. Il y avait des gens qui étaient un peu barrés, mystiques, astrologie. Je ne me sentais pas très bien à ma place, là. Et puis, j'attendais voir ce qui allait se passer. J'aidais évidemment aux travaux domestiques, parce que j'ai horreur d'être entretenue. Donc, je faisais la cuisine, je faisais ce qu'il fallait faire. Et puis j'attendais qu'on répète. Et puis en fait, tous les jours, on se mettait sur un pré à l'extérieur. Tout le monde était assis en rond, comme ça, en lotus, avec les chiens, les enfants. Et puis, ils faisaient une espèce de... une vibration intérieure profonde qui était censée éveiller une espèce d'énergie créatrice, quoi. Donc, j'étais censée jouer l'étoile, la carte du tarot qui s'appelait l'étoile, dans un argument qui était autour des cartes du tarot, mais en fait j'ai jamais vraiment bien compris ce que j'avais joué. Alors.
Mais c'était quoi? C'était l'époque hippie, pattes d'éléphant, fleurs dans les cheveux. Vous étiez
pas
en plein là-dedans?
Non, c'était pas du tout ça. C'était plutôt ce qu'on appelait les freaks, quoi. C'était pas.
Qu'est-ce que c'est les freaks?
Les freaks, c'était des gens qui avaient beaucoup plus de caractère. Par exemple, au point de vue vestimentaire, on s'habillait pas du tout comme les autres. Hein. C'était que des choses qu'on allait chiner aux puces, des trucs un peu décalés, des chapeaux claques, voilà, des choses, voilà, des robes années 50. Voilà, une manière très personnelle de s'habiller. On suivait pas du tout la mode hippie. On se moquait énormément des hippies et de leur flower power. Moi, je les trouvais vraiment un peu ringards, quoi. Donc, voilà, on arrive à Genève, à la Maison de la Culture.
Avec votre spectacle.
Avec notre spectacle sur les cartes du tarot, dans lequel je devais jouer l'étoile. Alors j'avais pas vraiment de costume. Alors je m'étais, comme je sais coudre, je m'étais bricolé une espèce de costume avec du tulle, des voiles comme ça. Puis il y avait des étoiles que j'avais mis dedans. J'étais un peu enroulé comme ça, comme une statue dans cette espèce de tulle, hein, avec des paillettes. Et puis on est sur scène, sur le plateau. Pareil, ils commencent à faire le monde tous ensemble. Hein. Bon, ça va peut-être démarrer. Et puis, il se passe rien. Le rideau ne s'ouvre pas. Et puis, on entend... Et c'était Higelin qui était rentré par le fond de la salle et qui faisait le spectacle tout seul avec sa guitare pour le public, qui était tourné vers lui.
Et qui ne vous regardait pas, vous ne vous voyez pas.
Alors, le rideau ne s'est jamais ouvert. Mais il avait bien raison. Parce que nous, on était... Voilà, le spectacle, c'était n'importe quoi. Alors que lui, il avait du talent. Il faisait son troubadour, là, c'était formidable. Donc, voilà. Donc, ça a été, encore une fois, une expérience ratée. Mais en même temps, ça sert toujours, les expériences ratées. Donc, voilà, j'ai vu ce que c'était un peu que ce milieu du spectacle, c'est pas facile. Voilà, chacun. D'abord, il faut beaucoup travailler. Il faut quelqu'un qui coordonne tout ça. Là, ça manquait terriblement. Personne ne coordonnait parce qu'en fait, Higelin, il n'était pas fait pour avoir une troupe. Il est beaucoup trop sur lui, quoi. Voilà, c'est normal, hein, je le comprends tout à fait. Donc c'est pas un partageur. Et je crois que son rêve de faire une troupe comme Savary, en fait, il a laissé tomber ce jour-là, quoi. Donc je suis rentrée à Paris. Et là, bon, je me suis dit, toujours le souci de gagner sa vie, quoi. Mais bon, je suis allée traîner du côté du théâtre du Rhin-de-Lac, parce que le théâtre du Rhin-de-Lac, à l'époque, c'était l'endroit...
dans le 16e arrondissement à Paris.
Rue des Vignes. Un théâtre magnifique, tout en chêne sculpté, très 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 beau, vraiment. Donc là, ce théâtre du Rhin-de-Lac, le gérant appartenait à un mec qui s'appelait Henri Ginet, qui en avait fait un ciné-club. Donc c'était l'endroit où on voyait du cinéma d'art et d'essai. Il y avait l'IDEC qui était juste à côté, la porte à côté du théâtre du Rhin-de-Lac. Donc, il se trouve que ce monsieur Henri Ginet venait de mourir à 46 ans, comme ça, brutalement. Et ses deux fils, qui étaient des branleurs finis, hein, comme moi d'ailleurs, hein, qui avaient 24 et 22 ans, Laurent et Polo, se sont retrouvés à programmer ce théâtre jusqu'à la fin du bail. Donc, j'arrive dans ce théâtre du Rhin-de-Lac. Évidemment, je sympathise tout de suite avec eux. Et ils m'engagent comme... pour tenir la caisse, vendre les billets et pour tenir le bar. Donc là, j'ai trouvé du travail et je travaille dans un théâtre, mais je ne suis pas encore sur scène. Voilà. Mais j'ai adoré cette période, vraiment. C'était une époque joyeuse où on faisait énormément la fête, évidemment. Hein. Les gens qui passaient là, c'était bon, Higelin, toute la bande de chez Sarava, de Pierre Barou, Archichep venait aussi, Vinicius de Moraes est resté presque 2 mois au théâtre du Rhin-de-Lac. Et Vinicius, c'était un merveilleux chanteur, merveilleux poète. Je ne connaissais pas du tout la musique brésilienne. J'ai eu quand même la chance de le voir tous les soirs. Le théâtre était plein, parce que c'était quand même quelqu'un de très connu. Je vendais ses disques au bar à l'entracte. Et il me demandait de lui acheter une bouteille de whisky que je lui portais tous les jours sur scène, parce qu'il buvait sa bouteille de whisky. Il était assis à une petite table avec sa bouteille. Et le reste de l'argent, il me le laissait. Et il avait l'âge de mon père. Il était extrêmement gentil. Il était accompagné à la guitare par Toquinho, qui était un bel Indien avec une moustache noire et des grands cheveux longs. J'étais complètement folle de lui.
Elle a été heureuse, cette période-là de votre vie?
Très, très insouciante.
Parce qu'on a l'impression que pour vous, les choses se tricotent assez facilement, finalement.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Vous allez de rencontre en rencontre, Vous passez d'espace en espace, vous croisez des groupes, des communautés, Vous faufilez au milieu de tout ça, avec visiblement beaucoup de souplesse.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il faut croire que je suis sympa, que je suis facile à vivre.
Mais vous m'aviez dit, en préparant cette émission, Mona Heftre, qu'à un moment donné, vous avez pris conscience aussi de ce capital que vous aviez, qui est votre beauté, ce qui est vrai.
Il ne faut pas exagérer. Ouais. Je pense que ça aide quand on est jolie, évidemment. Mmh. Donc j'étais très jolie, je n'étais pas du tout farouche. Hein. Et puis c'était l'époque où, voilà, tout, l'amour libre, voilà, tu me plais, voilà, je te plais. On changeait souvent de partenaire. Moi, j'étais tout le temps amoureuse. À chaque fois que j'avais des amoureux, j'étais amoureuse. Et puis, je me posais pas, quoi. J'étais un papillon. Je savais pas du tout. J'avais pas du tout, du tout envie de me caser, ni d'avoir une famille. Je voulais garder ma liberté. Voilà. C'était l'époque qui voulait ça aussi. Et puis, j'étais si jeune, vous vous rendez compte, j'avais quand même 22 ans. C'est très, très jeune, quoi. Donc, l'épisode du Ranelagh se termine par un incendie de l'IDEC, une pellicule ayant pris feu dans l'IDEC, l'appartement de fonction où on habitait au-dessus, où on faisait des afters, mais dément toute la nuit, prend feu aussi. Et la fin de l'histoire, fin du Ranelagh.
Et c'est là qu'arrive Ibiza?
Alors, justement, c'est là qu'arrive Ibiza, voilà. Alors, je me retrouve donc, encore une fois, sans rien, à la rue. Et il se trouve que dans l'appartement du Ranelagh, il y avait une fille que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Vanina, parce qu'elle n'est plus là. Qui était vraiment, vraiment une copine, qui était aussi la petite amie de Polo. Polo, en fait, il avait deux petites amies, Mona et Vanina. L'amour était libre à l'époque, on était partageurs, on n'était pas possessifs. Et donc, avec Vanina, elle me dit, voilà, Ibiza, il se passe des choses, voilà, plein de choses à Ibiza, c'est à Ibiza qu'il faut aller. On me prête une vieille finca, mais ses parents lui prêtaient une finca, ou les amis de ses parents, je ne me souviens plus. En tout cas, on se retrouve là-bas, dans un champ d'oliviers, dans une finca, en plein soleil, sans eau, sans électricité, un endroit sauvage, magnifique. Il faut dire que Ibiza, à l'époque, était une île encore très, très, très sauvage. Et puis, il y avait des gens qui venaient du monde entier, des marginaux, qui essayaient, voilà, une nouvelle forme de vie, parce qu'ils avaient refusé la société, ou ils n'avaient pas de repères, ça les intéressait, puis ils voulaient tout refaire. Donc, c'est plein d'espoir. Il y avait des artistes aussi, on y croisait des artistes. Donc Vanina, malheureusement, encore une fois, voyez les parents comme ils peuvent faire du mal à leurs enfants. Elle était assistée par ses parents qui lui envoyaient des mandats en poste restante tout le temps. Donc elle est partie dans la défonce très vite. Il y avait beaucoup de drogue qui circulait à l'époque.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Ouais. C'est que c'est aussi une époque à la fois de liberté des mœurs, mais aussi de ravages opérés par la drogue. Et vous, vous êtes passé au travers de tout ça. Ça n'était pas votre truc, ça ne vous intéressait pas.
C'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Moi, les aiguilles, tout ça, ça me faisait peur. L'héroïne, tout ça, ça m'a toujours effrayée. Le LSD, bon, j'ai goûté un peu comme ça pour voir, mais c'était pas mon truc. On perdait trop. On savait plus où on était. On était trop égarés. Moi, j'aimais bien garder les pieds sur terre quand même. J'en avais besoin. Donc, j'ai laissé tomber très vite Vanina et tout ce côté défonce. Et puis, je suis partie dans une communauté où il y avait des gens qui étaient des artistes, justement. Il y avait des peintres. Donc, je vendais des toiles qui se faisaient dans la communauté à la terrasse des restaurants, et puis je vais créer une collection de maillots de bain, effectivement, dans une boutique. Parce qu'un Italien m'avait demandé de créer une collection de maillots de bain. Je savais coudre parce que ma grand-mère m'avait appris. Ça aussi, ça m'a amusé. Mais en fait, tout m'a amusé, vous savez, dans la vie. Tout m'a amusé. Dès l'instant où on me faisait confiance, je crois que j'étais très, très généreuse. Enfin bref, voilà, donc Ibiza, ça a duré un moment. J'ai eu une expérience extrême aussi avec un jeune homme... qui m'a amené faire... il avait lu le Walden de Thoreau, donc on est parti dans une grotte au pied d'une falaise au bord de la mer. On a vécu, mais vraiment sans rien, nu au soleil, en pêchant des oursins, des poissons, en mangeant des amandes qu'un paysan nous amenait ou des olives. Donc ça aussi, c'est une expérience extrême que j'ai adorée.
Oui, la mise en acte des principes de Thoreau, c'est quelque chose.
Totalement.
Se retirer de la société
Absolument.
Pour être au plus près de la nature.
Voilà.
C'est pas si simple.
On l'a fait.
Vous avez tenu combien de temps ?
Bon, on a dû tenir un mois.
Ah, quand même ?
Ouais. C'était l'été.
Vous viviez d'amour et de...
Et de
solitude.
Et d'oursin.
Et d'oursin.
Et donc, l'hiver est arrivé. Ibiza, c'était fini. Ça n'avait plus le charme de ce que ça avait en été. Vanina est partie en Inde avec un Argentin que j'aimais pas du tout. Elle avait vraiment de très mauvaises fréquentations. Puis j'ai appris plus tard qu'elle était morte d'overdose aux Philippines, vous voyez. C'était une très, très jolie fille. Et puis moi, je suis rentrée à Paris, encore une fois. Je me suis retrouvée en cherchant du boulot, des petits boulots. Bon, j'ai pris un hôtel. Et là, je me suis fait accoster par un Japonais. Un Japonais, très bien sur lui, très, très classe, très gentil, qui m'a demandé si je ne voulais pas poser pour faire des pin-up sur des calendriers pour le Japon. Alors, j'ai dit oui, évidemment, bien sûr, tout de suite. Et puis, je me suis retrouvée quelques jours après dans le bois de Vincennes avec sa femme, japonaise. Tous les deux très bien élevés, très polis. Donc moi, je grimpais dans les arbres. Il me faisait poser sur des branches, comme ça, dans le bois de Vincennes, avec une fleur sur mon petit triangle, parce qu'on ne voyait pas de pubis. Et puis les fleurs changeaient avec les saisons du calendrier. Et là, quand la séance de pose était finie, on pique-niquait au pied des arbres avec la japonaise qui avait préparé à manger. Donc c'était aussi extrêmement bon enfant, très sympathique. Et puis après, on s'est passé avec des copines des tas de plans comme ça. Tous les plans pour gagner des sous, on se les passait. On était une bande de jolies filles, on a posé pour des couvertures de romans polars avec Walter Caron, qui est le fondateur de Lui, qui nous a fait bien travailler. J'ai fait des starters pour Playboy, j'ai fait voilà, des petites choses comme ça, beaucoup de photos de pin-up, qui finalement me faisaient bien gagner ma vie. Et puis à l'époque, je fréquentais rue de Bussy, une espèce de communauté de cinéastes en herbe, voilà, et qui avaient tous beaucoup de projets. On écrivait des scénarios, on tournait des petits films en Super 8. Avec Laurent Perrin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui n'est plus là malheureusement, qui a fait son premier film, qui s'appelait Mona Panique. Bon, on tournait en Super 8, on n'avait pas de son, donc voilà, je faisais beaucoup, beaucoup là, du burlesque toujours. Hein. Mais encore une fois, je ne m'étais pas encore coltinée avec un texte. Et ça, plus tard, je me suis dit quand même, ça me manque quand même, moi qui aime tellement les auteurs, moi qui ai lu Tchekhov, et voilà, je n'ai pas encore joué Nina, bon, peut-être un jour je le ferai, en fait je ne l'ai jamais joué.
Mais vous vous êtes coltinée avec toute autre chose, Mona ouais. Heftre, et qui ne vaut pas rien non plus. Ah, non. C'est à ce moment-là que vous rencontrez Paquita Paquin, qui a été une figure des Nuits parisiennes. Elle a été chroniqueuse de la mode, elle a été journaliste, elle est écrivain. Mmh. C'est elle qui vous parle de ce travail qui consiste à aller faire du striptease dans la boîte de Marcel, ouais. Travesti. Ce que vous faites.
Ouais. Eh bien, c'était ça m'amusait follement parce que c'était un peu de la contre-culture dans les milieux populaires, voire prolétaires même, parce que dans les foires, il y a beaucoup de prolos qui se baladent. J'avais jamais vu striptease de ma vie avant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'intégrer ce milieu des forains. Ça m'amusait beaucoup. Toujours pareil, la découverte pas d'un milieu que je connaissais pas. J'avais la liberté de faire ce que je voulais. Marcel, donc la patronne de la baraque, était aussi un travesti. Il y avait beaucoup de travestis. Avec moi qui se déshabillait, en fait, j'étais pratiquement la seule fille. Et j'avais envie de danser. Et danser nue, ça me gênait pas, même ça m'amusait, on veut dire, parce que Marcel, elle me laissait libre, hein. Je faisais ce que je voulais, et ce qu'elle voulait, c'est nu intégral, c'est tout. Donc elle me demandait pas de faire des numéros, en faisant la vamp avec des bas noirs, avec tous les accessoires de la striptease, c'était pas du tout ça. Donc j'étais libre. Et donc je me suis amusée parce que j'ai choisi Les Women des Doors, mais j'avais un numéro là-dessus, très rock'n'roll. Et puis Patti Pata de Myriam Makeba, que j'aimais beaucoup, je faisais une espèce de numéro de danse africaine aussi. C'est une période très très heureuse parce que j'étais surexcitée par cette espèce d'ambiance qu'il y a dans les foires. J'étais une foraine comme les autres. Je faisais tous les manèges gratuits si je voulais. Je me retrouvais quelquefois aux autotamponneuses avec des mecs qui me fonçaient dessus avec leur voiture, qui me coinçaient dans les coins. Bon, à l'époque, je ne voyais pas qu'il y avait une espèce de pulsion sexuelle. Je sentais juste qu'il fallait pas trop les chauffer, c'est tout. Mais en fait, il m'est jamais rien arrivé de déplaisant, de désagréable. J'ai toujours, je sais pas si c'est parce que j'ai gardé toujours les pieds sur terre, mais je pense que j'avais une espèce de, pas d'innocence, mais de candeur en tout cas. Voilà. Je ne voyais pas le mal, quoi. Par exemple, j'étais dans un milieu qui quand même était extrêmement sordide, mais je ne voyais pas le sordide, pas du tout.
Ce monde de la nuit que vous fréquentez à ce moment-là, donc faisant ces striptease avec Marcel, c'est un monde qui vous amène à croiser aussi toute cette population qu'étaient les transsexuels, les travestis. Ouais. Il y avait Marie-France qui a créé les Gasolines. Les Gasolines, c'est un groupe mythique de transsexuels et ouais. travestis qui était en plus très militant hein, politiquement pour les droits homosexuels. Donc vous baignez là-dedans, j'imagine quand même que ça laisse là encore des souvenirs très précis. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui on parle énormément du genre, qui est devenu un vrai combat politique menée par les personnes LGBTQI, à l'époque, vous vous étiez à l'intérieur de ça. Oui. Et ça n'était pas encore des revendications politiques, mais c'était une réalité.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. J'ai assisté aux premières manifs du Phare.
Mmh. Le Front de homosexuel d'action révolutionnaire.
D'action révolutionnaire, oui. Donc j'ai croisé Maud Molineux, j'ai croisé Ilana Zera.
Ilana Zera, ouais. Qui était productrice à France Culture. Ouais.
Je sais pas si elle s'en souvient, moi je m'en souviens en tout cas. Oui, j'ai fréquenté le milieu des... plutôt des travestis que des homosexuels, parce que c'est par le striptease que j'ai rencontré ces personnalités que je trouvais pleines de fantaisie, drôles. On défilait par exemple dans les champs de foire avec mes travestis derrière les majorettes, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait rien de plus ringard que les majorettes, on s'est quand même bien bien amusé. On était quand même très fêtards. Hein. Bon, bien sûr, il y avait ce discours, il y avait cette revendication des homosexuels, parce qu'ils étaient aussi dans un combat, comme nous les femmes, pour être libérées, quoi, hein, pour exister. Donc j'adhérais totalement à leur envie de liberté, de se faire connaître, d'autant plus que dans mon village, moi où j'étais, enfin dans mon bled, on ne disait pas homosexuel, on disait pédéraste. Hein. Et mon père était très réac avec ça. Je me souviens qu'il y avait un pédéraste qui était dans le village, il fallait traverser, changer de trottoir et pas passer devant sa maison, vous voyez. Ça allait très très loin quand même. Hein. Et puis, bon, c'est vrai que c'est tout ce mouvement politisé, homosexuel, ils étaient ouais, extrêmement riches, très intéressants, passionnants, cultivés, et puis très fraternels avec les femmes. En tout cas avec les femmes comme moi, très fraternelles, c'est sûr.
Mais quand vous dites sordide, alors vous voulez dire quoi, Monef?
Je veux dire, le sordide, c'est, voilà, c'est faire du... se déshabiller dans une baraque de striptease à 5 francs l'entrée. La baraque s'appelait Oniswa Kimal, y pense. Avec un filet de pêcheur derrière, et puis la patronne, Marcel, travestie, genre camionneur avec ses fossiles et qui dansait la rumba, c'était quand même, c'était quelque chose. Hein.
Et vous m'avez dit que cette baraque ne rentrait pas dans Paris, elle faisait le tour de Paris,
oui,
pourquoi? Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, j'ai appris après qu'elle était interdite de séjour à Paris.
Marcel?
Oui, Marcel, oui. Pour accolage, je crois. Mmh. Oui, il y avait dû y avoir d'autres histoires, à mon avis, plus sordides. Mais ça, on n'en parlait pas. Un jour, elle m'a appelée, longtemps après. En me disant, ma chérie, ma poulette, appelle, viens vite, je suis au sous-sol d'un bar, là-bas, à Montparnasse. Elle était rentrée dans Paris, donc je sais pas, elle s'était fait casser la gueule, je crois. Viens m'amener un rasoir. Elle m'avait dit, viens m'amener un rasoir. Donc il y avait du sordide. Ces gens-là avaient une vie sordide. Tous ces gens-là avaient un passé sordide. Moi, j'avais pas de passé sordide, mais j'avais de l'amitié pour eux. C'était des gens, je dirais pas que j'avais du respect pour eux, mais ils me faisaient confiance encore une fois. Et puis c'était très bon enfant, quoi. Vraiment très très bon enfant. Bon, je gagnais pas très très bien ma vie. Je me disais, je fais ça tant que ça m'amuse. Donc tous les week-ends, je retrouvais mes copains, mes copines travestis, on se marrait beaucoup. Et puis après, quand ça m'a plus amusé, j'ai arrêté. Mmh.
Colette Goudard, qui a été extrêmement importante à un moment donné dans votre vie, puisque c'est à travers elle que vous avez rencontré, cette fois-ci pour de vrai, alors cher et en os, Jérôme Savary, mais on va y arriver plus tard. Elle a écrit de vous à cette période que les spectateurs, ébahis par tant de grâce et d'innocence, donc au striptease, en oubliaient leurs arrière-pensées égrillardes. Là, elle parle de vous. Moi, ce qui me frappe, c'est que je me dis Mona Heftre qui se déshabille dans une danse sur les Doors ou peu importe sur quelle musique, devant un public qui n'est probablement que masculin, je peux l'imaginer, qui n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'elle a appris d'elle et de son corps, de la façon dont on se sert de son corps sur une scène, dans cet exercice du striptease?
Qu'est-ce que j'ai appris d'abord? C'était ma première scène.
Oui.
Voilà, mon premier public. Donc c'est pas rien. Et puis, je me prenais un peu pour Colette dansant dans les music halls. Donc j'avais quand même des références.
Colette la romancière, pas Colette Goudard.
Non, Colette la romancière. Donc voilà, donc c'était voilà, première expérience sur scène, premier rapport avec le public. C'était assez violent quand même, parce que je savais qu'il y avait une charge érotique qui était indéniable, évidemment. Mais je m'amusais avec ça, parce qu'il y avait quand même la barrière, la frontière de la scène. Personne ne montait sur scène pour essayer de vous attraper, hein, personne. Il y avait quand même une distance, quoi. À un moment donné, j'avais un fouet, je me souviens, quand les mecs commençaient à approcher leurs mains, clac, je donnais des grands coups de fouet dessus. Ça aussi, c'était un jeu. C'était un jeu. En fait, je me suis amusée à danser nue, à faire la stripteaseuse, mais j'étais pas du tout stripteaseuse dans l'âme, je connaissais pas, ça m'intéressait pas. Tous ces trucs de, voilà, rouler les bas, tout ça, comme je vous ai dit, c'était pas mon truc. À la même époque, il y avait Rita Renoir, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Rita Renoir, c'est une stripteaseuse, dans les années 70, qui avait complètement revisité le genre. Elle venait du Crazy Horse, donc elle était professionnelle, elle. Hein. Et puis qui faisait un striptease sans tous ces stéréotypes justement de glamour et qui faisait un spectacle très violent qui s'appelait le Diable, où elle se roulait par terre, elle hurlait. Il y avait Cortázar, Julio Cortázar, qui était là tous les soirs.
Écrivain,
et qui écrit un texte très beau sur elle. Il l'appelait la sorcière, je ne me souviens plus en tout cas. Il y avait aussi cette forme, le striptease était déjà... On pouvait revisiter aussi le striptease. Il y avait cette envie-là. Et disons que moi, je sentais bien que j'étais atypique dans ce milieu, évidemment.
Vous ne faisiez que passer, au fond.
Évidemment que je ne faisais que passer. Mm. Évidemment, si vous dites, ça m'a amusé un moment, puis que ça ne m'a plus amusé, j'ai arrêté. Mais je sentais bien que j'étais atypique, parce que je voyais bien les gens de Paris qui venaient, comme Colette Godard. Il n'y avait pas que Colette qui venait. Il y avait l'assistante Garel qui venait, il y avait Jacques Robiol, le réalisateur, il y avait Dominique Isserman, la photographe, qui venait. Il y avait des gens qui venaient, qui étaient intéressés, qui étaient curieux, parce que justement, j'étais atypique. Et puis parce que c'était quand même extrêmement kitsch. Et on aimait le kitsch à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marcel, c'était d'un kitsch, mais incroyable.
Ce sont des gens avec qui vous êtes resté après en contact, une fois que vous êtes parti ailleurs, Mona Heftre ?
Non.
Aucun d'entre eux ?
Non. Aucun, non. Une fois, j'ai rencontré Paquita Paquin à Chaillot, il y a très longtemps. Et elle me dit, ah Mona, tu te rappelles et tout. Je dis, ah oui, sympa, mais bon, on ne s'est jamais revu. Non, je n'ai pas gardé de contact avec ces gens-là, du tout. À part Polo, le directeur du Ranelagh, qui restait un copain. Ouais.
Oui, oui. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quelque chose d'assez cohérent, au fond, dans votre décision d'aller dans ce milieu forain. Parce que c'est un choix de votre part. Vous auriez pu dire non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas faire ça. Et prendre une toute autre direction. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a l'air assez limpide, finalement, par rapport à la personnalité, la personne Mona Heftre qu'on voit peu à peu apparaître.
Bien sûr.
Et qui est sans doute liée aussi à l'enfance que vous avez eue.
Parce que j'aime les forains, c'est sûr, j'aime les forains. J'aime les forains, j'aime les gitans, je les ai toujours aimés.
Après avoir aimé les forêts, vous avez aimé les forains.
Les forains, oui, c'est vrai. Et en plus, quand j'étais petite, je me souviens, en revenant du collège, je traversais la fête foraine à Libourne, sur les allées, pour rentrer chez moi. Et j'attendais avec impatience que la fête foraine s'installe. Et j'avais toutes les odeurs de nougat, de pommes d'amour, de barbapapa, tous les manèges. Et puis, j'avais pas de fric pour faire le tour de manège, c'est vrai. Et après, quand j'étais avec les forains, que j'étais stripteaseuse, alors là, je me suis vraiment rattrapée. Quoi. Là, il y avait quelque chose d'assez enfantin aussi. Non, je plaisante, il n'y a pas que ça, évidemment. J'aimais ce monde qui était un monde en soi. Un monde en soi avec des règles. Avec des règles, et puis c'était comme une corporation. Il y avait beaucoup de... Comment dire, voilà... Pas de fraternité, c'est un peu fort le mot, c'est pas juste, mais bon, on était tous voilà dans le même, on était des forains, donc la vie était dure, on serrait les coudes, voilà, on était solidaires, voilà, on était solidaires. Et quand on se retrouvait chaque week-end avec toujours les mêmes forains, et salut, et toi, t'as fait une bonne recette, ouais, salut, et toi, ouais, le sale temps, on va pas faire ce qu'on voulait, etc. Bon, c'était un monde en soi. Et j'aimais faire partie de ce monde-là. Et surtout qu'ils ont été extrêmement fraternels avec moi et pas snob du tout. Oui, je parle beaucoup de fraternité. Hein. C'est important.
Merci beaucoup, Mona Heftre. On se retrouve demain pour la suite.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec Mona Heftre. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Alexandre Abergel, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.